Chapitre 7. J'avais eu l'intention de décrire cette première soirée de Holmes et James à New York, mais je n'ai pas réussi à savoir où ils l'ont passée. Je dispose de sources indiquant qu'ils ont tous deux franchi la douane à 19h le jeudi 23 mars 1993, Holmes avec son passeport norvégien établi au nom de J. Sigerson, mais j'ai perdu leur trace après. À en croire la conversation que je sais qu'ils ont eue le lendemain dans le train à destination de Washington, il est possible qu'ils n'aient pas dîné ensemble ce soir-là et ne soient pas descendus dans le même hôtel. Apparemment, ils ne s'étaient pas parlé depuis l'explication indiscrète de Holmes au moment de la mise à quai du paquebot. J'avais aussi supposé que pour des questions de commodité, ils prendraient un train pour Washington partant de Grand Central Depot le vendredi 24 mars. Mais Holmes, qui s'était occupé de toute l'organisation de leur voyage précipité, leur avait réservé des billets dans le Boston-Washington nommé le Colonial, ou parfois le Colonial Express, géré conjointement par deux compagnies de chemin de fer, la Pennsylvania Railroad et la New York New Haven and Hartford Railroad. En 1893, le Colonial n'entrait pas encore à Manhattan et ne reliait pas Grand Central Depot. Ça se ferait après le naufrage du Titanic en 1912. Aussi, Holmes et James avaient-ils sûrement dû se lever de bonne heure et embarquer dans l'un des premiers ferries pour Jersey City afin de prendre le Colonial qui les emmènerait à Washington via Philadelphie et Baltimore. C'était le train le plus rapide à leur disposition ce jour-là, mais pas le plus pratique pour quelqu'un ayant passé la nuit à Manhattan. J'ai eu confirmation que Henry James avait envoyé de Marseille un câble à John Hay disant qu'il rentrait en Amérique pour des raisons personnelles et privées et lui demandant de n'avertir personne, à l'exception peut-être de Henry A. Il donnait la date et l'heure approximative de son arrivée à Washington et précisait à son vieil ami que l'explorateur norvégien avec qui il avait sympathisé et voyageait temporairement et lui trouverait un hôtel ou loger à Washington. À son arrivée à New York, James reçut par câble la réponse de John Hay. « Sornette, votre compagnon de voyage et vous devez loger à la maison pour la durée de votre séjour. Nous insistons, Clara et moi. Il y aura assez de place, de nourriture, de vin et de conversation pour tout le monde. Adams est actuellement en voyage, mais il sera ravi d'apprendre votre retour au pays. Superbe coïncidence, l'attaché diplomatique d'Oscar II, roi de Suède et de Norvège, sera notre hôte pour dîner le dimanche soir. Nous sommes tous impatients de rencontrer votre intrépide ami explorateur. » James montra le câble à Holmes alors qu'il se rendait à la gare de Jersey City et ne put contenir un sourire sardonique. « Un peu problématique, peut-être. »« En quoi, mon cher ?» demanda Holmes alors qu'ils attendaient à l'avant du ferry. « Le déguisement de M. Jan Sigerson s'accompagne-t-il d'une maîtrise du norvégien ?» demanda James sans détour. « Vous feriez peut-être mieux de vous installer à l'hôtel de Washington. » De ne rendre visite à Hay et Adams qu'à des occasions choisies et d'être souffrant dimanche soir. Pas question. C'est un grand avantage de séjourner chez les Hay. Vous m'avez bien dit que leur maison était proche de celle de Henry Adams. Voisine et mitoyenne même, répondit James. Comme la Suède et la Norvège. Eh bien voilà, conclut Holmes. Nous devrons laisser le représentant du roi Oscar II de Suède et de Norvège se faire sa propre opinion dimanche. Les billets de train avaient beau être de première classe, il n'y avait pas de compartiment privé. Par chance, le wagon de première n'était pas bondé ce vendredi matin. Assis de part et d'autre de l'allée centrale, Holmes et James pouvaient se pencher pour se parler en toute discrétion quand ils le désiraient. James remarqua aussi que si les Américains n'avaient pas complètement perdu leur dégoûtante habitude d'expectorer en permanence, il semblait y avoir moins de crachats visibles partout que lors de son dernier séjour, et le tapis rouge dans l'entrée du wagon n'était pas imbibé de tabac liquéfié comme tant de moquettes 10 ans plus tôt. En 1883, James avait décidé qu'il ne pourrait plus jamais vivre en Amérique, ni peut-être même y séjourner, ne serait-ce qu'à cause de cette manie locale de cracher. « Parlez-moi des 5 cœurs, » dit Holmes alors qu'il quittait Philadelphie. Pour cette conversation, le détective avait traversé l'allée et s'était assis face à James, dans le sens contraire de la marche. Leurs genoux se touchaient presque, en une proximité que l'écrivain trouva désagréable. Holmes se penchait sur sa canne de style nordique. James regretta de ne pas en avoir apporté une, ne serait-ce que pour l'utiliser comme barrière entre eux. Il posa fermement les paumes sur ses genoux pour créer une structure de séparation. En fait, leur petit groupe ne s'appelait pas les 5 cœurs, mais les 5 deux cœurs. « Dans ce cas, parlez-moi des 5 deux cœurs. » C'était le salon de Clover Adams. Un salon typiquement américain, je dirais. Qu'entendez-vous par là ? James prit le temps de clarifier sa pensée. Contrairement à tous les salons que j'ai connus en France, en Italie ou ailleurs, celui-là n'était pas centré sur la littérature et les écrivains, ni sur l'art et les artistes, ni sur la sainte trinité des salons que sont l'argent, l'aristocratie et la notoriété, même si les Adams n'avaient rien à envier à quiconque dans ces trois domaines. Vraiment, s'étonna Holmes. Je croyais qu'il n'y avait pas d'aristocratie aux États-Unis d'Amérique. James sourit presque avec pitié à son cadet. Il allait avoir 50 ans quelques semaines plus tard et Holmes avait mentionné qu'il aurait 39 ans en avril, mais en cet instant, l'écrivain se faisait l'effet d'être un vieux gentleman plein de sagesse. « Toutes les sociétés possèdent leurs subtiles aristocraties, monsieur Holmes. Sigerson. Fondée sur la richesse quand ce n'est pas sur la naissance, et sur le pouvoir quand ce n'est pas sur la richesse, et ainsi de suite. Pourtant, Henry Adams n'appartient-il pas à l'aristocratie dirigeante de Washington ? » James fronça les sourcils avant de répondre. L'insupportable détective s'essayait-il à la provocation ? Faisait-il semblant d'être idiot ? Après quelques secondes de réflexion, James décida que non. Il était seulement naïf. Henry Adams est le petit-fils d'un président américain et l'arrière-petit-fils d'un autre. Tous deux côté paternel, bien sûr, mais lui-même n'a jamais détenu de pouvoir politique. Il est riche, c'est vrai. Clover et lui se trouvaient au centre de la haute société de Washington dans la première moitié des années 1880, c'est vrai. Mais même en étant un membre de ce que les philosophes français ou Jefferson auraient pu appeler une aristocratie naturelle, Adams n'a jamais détenu de pouvoir proprement dit. Pensez donc, il a commencé comme professeur à Harvard. Holmes hocha la tête. Revenons-en à Madame Adams. Décrivez-moi votre ancienne amie Clover, de manière aussi brève et concise que possible, s'il vous plaît. James se sentit heurté dans sa sensibilité à fleur de peau. Vous me demandez de révéler des détails personnels concernant une chère amie disparue et l'épouse d'un ami, monsieur, souligna-t-il avec raideur. Souvenez-vous que si je n'ai pas la nationalité britannique, je n'en suis pas moins un gentleman. Et il y a des choses que les gentlemen ne font pas, tout simplement. Holmes soupira. Pour l'heure, monsieur James, et dans un futur proche, vous êtes un gentleman américain qui a accepté de m'aider à faire la lumière sur le possible meurtre d'une compatriote américaine, ou du moins à percer le mystère entourant un individu affirmant tous les ans qu'elle a été assassinée. À cet égard, votre responsabilité vis-à-vis de votre ami pèse plus lourd que vos soi-disant devoirs de gentleman. Nous devons tous deux dépasser cela pour pouvoir établir si votre ami Clover Adams a été tué. Facile pour vous, songea James. Vous n'êtes pas un gentleman. Il poussa un soupir audible.
Très bien. Que voulez-vous savoir à propos de Clover ?
À quoi elle ressemblait, pour commencer ?
James s'indigna une nouvelle fois.
« En quoi son apparence importe-t-elle, monsieur... monsieur Sigerson ? Avez-vous une théorie selon laquelle quelqu'un l'aurait tué à cause de son physique ?»«
C'est une simple pièce d'un puzzle complexe, » répondit tranquillement Holmes. « Et un point de départ. »
« Comment était Clover Adams ?» James prit un instant avant de répondre.
Disons que Henry Adams n'a pas épousé Mademoiselle Marianne Hooper en juin 1873, uniquement pour sa beauté. Elle avait un physique ordinaire, bien que, comme Henry lui-même l'a écrit il y a des années, elle n'eût pu en aucun cas être qualifiée d'ordinaire. Elle était petite, mais Henry Adams, comme vous le verrez peut-être, n'est pas grand selon les critères modernes. Et bien qu'il n'ait pas été excessivement affûté par l'instruction, son esprit était vif et elle était dotée d'une grande intelligence. Il hésita de nouveau.
Ainsi, je dois l'avouer, que d'une langue bien pendue.
Durant les 5 années où ils ont vécu à Washington avant sa mort, Clover s'est fait beaucoup d'ennemis, des arrivistes en particulier et certains sénateurs et leurs épouses qu'elle fuyait.
Ce salon des 5 de cœur dont elle était le centre semblait donc assez exclusif. James regretta une fois encore de ne pas avoir apporté sa canne pour s'appuyer dessus en réfléchissant cette fois.
« Oui, sans doute »,
répondit-il doucement, semblant plus se parler à lui-même qu'au détective assis en face de lui.
Henry et Clover Adams et les trois autres membres des Cinq de Cœur n'auraient jamais invité quiconque dans leur cercle intime sur des critères de pouvoir ou de notoriété. Il conviait plutôt des artistes, des écrivains et des politiciens mineurs au dîner organisé après le thé qu'ils prenaient tous les jours ensemble et les choisissaient en fonction des capacités de ces gens à les amuser.
J'ai écrit une nouvelle dans laquelle je faisais le portrait de Clover Adams sous les traits d'une certaine Madame Bonnycastle et... James s'interrompit au milieu de sa phrase. Il était atterré par son propre manque de discrétion.
Continuez. Dit Sherlock Holmes.
James prit une inspiration. Bon, pour ce qui était de l'indiscrétion, il avait déjà franchi le Rubicon.
Cette nouvelle s'intitulait Pandora. Mais vous devez comprendre que mes personnages de fiction ne se fondent jamais sur une seule personne réelle, vivante ou décédée. Ils sont toujours un amalgame entre expérience et invention.
Henry James n'aurait pas pu être moins sincère. Tous ces personnages importants, et la plupart de ces personnages mineurs, étaient directement inspirés de personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie.
« Bien sûr », répondit Holmes d'une voix onctueuse, semblant aussi peu sincère que l'était son interlocuteur.
Quoi qu'il en soit, dans cette nouvelle, j'ai décrit Madame Bonnycastle comme une dame d'une infinie gaieté et son salon de ceux qui refusent plus de gens qu'ils n'en acceptent.
Mais vous m'avez affirmé que la vraie Clover Adams n'était pas franchement une dame d'une grande gaieté, le coupa Holmes.
D'après vous, elle était la proie de fréquents accès de mélancolie depuis l'enfance.
Oui, oui,
concéda James avec impatience. On nommait certains traits de caractère dans une nouvelle. Si Madame Bonnycastle avait été le personnage principal d'un roman, eh bien, il aurait fallu explorer toutes les facettes de sa personnalité. Même celle qui, à première vue, aurait semblé contradictoire.
Poursuivez, je vous prie,
dit Holmes d'un ton presque contrit. Vous décriviez votre traitement fictionnel du savon de Clover de Madame Bonnycastle.
Je me souviens d'avoir écrit que le très rare sénateur ou membre du Congrès dont ils autorisaient la visite était toujours scruté avec, je me rappelle les mots précis, avec un mélange d'inquiétude et d'indulgence.
Holmes esquissa un fin sourire. Il parut vouloir demander à James s'il se souvenait, verbatim, de longs extraits de ses dizaines de livres et centaines de nouvelles, mais préféra manifestement ne pas faire dévier la conversation une fois de plus.
Continuez, s'il vous plaît. Je sais que mon bon ami Henry Adams s'est reconnu dans la nouvelle Pandora, quand j'ai fait dire à Monsieur Bonnycastle, dans un moment inhabituel d'ouverture d'esprit, « Diantre, soyons vulgaires et amusons-nous un peu, invitons le président. »
Invitait-il régulièrement le président ? Demanda Holmes. James émit un bruit presque grossier.
Pas ce minable James Garfield, même si j'imagine qu'il aurait traversé Lafayette Square pieds nus et au galop si on l'avait convié.
En revanche, les Adams ont traversé la rue, du moins Henry l'a-t-il fait, avec Richardson, leur architecte, je crois, la première fois, pour aller à la résidence présidentielle, après l'arrivée de Grover Cleveland au pouvoir en mars 1885.
Quelques mois seulement avant la mort de Clover.
Holmes leva un doigt.
Pardonnez-moi de vous interrompre encore une fois, James. Voici une autre chose qui me chiffonne à propos de l'Amérique.
J'avais cru comprendre, du moins dans mon enfance, que contrairement à Sa Majesté la Reine ou à la plupart des autres souverains du monde, les présidents américains étaient élus pour une période de temps limitée, 4 ans, si je me souviens bien. Pourtant, le président Cleveland était en fonction quand Clover Adams est morte en 1885 et, corrigez-moi si je me trompe, il est toujours au pouvoir aujourd'hui, au printemps 1893.
Les Américains ont-ils découvert les avantages d'une présidence à vie ?
Est-il possible qu'un Anglais soit aussi mal informé ? Se demanda Henry James. Comme s'il lisait dans les pensées de l'écrivain, Holmes sourit.
Durant un voyage en chemin de fer à destination d'une lande perdue, pour résoudre une affaire qu'il n'a pas relatée, du moins jusqu'ici, dans ses chroniques publiées de nos aventures, j'ai eu l'occasion de révéler au Dr Watson que, jusqu'à ce qu'il le mentionne en passant ce jour-là, je n'avais aucune idée que la Terre tournait autour du Soleil. Peut-être l'avais-je appris à un moment de ma vie, mais, à l'instar de toute information sans lien direct avec ma profession et mes activités de détective, je l'ai vite évacué de mon esprit. Il m'arrive, comme vous le découvrirez, de me laisser obnubiler par une seule chose. Vous devrez donc parfois être indulgent avec moi, monsieur. Pour un homme qui se vante d'être toujours derrière le Times, commença James avant de s'interrompre. Il était impossible que Holmes dise la vérité, et James voulait éviter toute querelle, pour l'instant.
Monsieur Grover Cleveland, reprit-il, se trouve dans la situation inédite d'être le seul président des États-Unis à faire deux mandats de 4 ans non consécutifs. Il a été l'hôte de la résidence présidentielle entre mars 1885 et mars 1889. Après un intervalle de 4 ans durant lequel la fonction a été occupée par un certain Benjamin Harrison, M. Cleveland a été réélu en novembre dernier et a prêté serment le jour de l'investiture il y a seulement quelques semaines. Holmes hocha la tête.
« Merci. Maintenant, s'il vous plaît, reprenez votre description des 5 de cœur. »
James regarda autour d'eux. « Je crains que le wagon-restaurant ne ferme bientôt. Peut-être pourrions-nous aller poursuivre notre conversation devant un déjeuner ?»